Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce numéro des Codes de développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable sur Radio Okapi, magazine que je co-anime avec Pauline Masirika, à qui je dis bonjour.
Bonjour Tati, salut à tous les auditeurs et auditrices.
Quels sont les mécanismes devant accompagner la loi portant protection des peuples autochtones aux Pygmées?
C'est à cette question principale que nous allons tenter de répondre au cours de ce magazine radiophonique.
Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise ce numéro. Pierre Diassinois s'occupe de la mise en onde des codes de développement. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'ONG Espoir pour tous a organisé dernièrement les travaux préparatoires de la table ronde sur les mécanismes devant accompagner la loi portant protection des peuples autochtones aux Pygmées promulguée par le chef de l'État en 2022 en collaboration avec l'USAID et autres partenaires impliqués dans la défense et la protection des droits des peuples autochtones Pygmées en RDC.
Quelles sont les thématiques qui ont fait l'objet de ce travaux préparatoire?
Pauline, la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones aux Pygmées promulguée le 16 novembre 2022 par le président de la République après son vote par le Sénat le 10 juin a servi de document de base au cours de ses travaux préparatoires selon Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous. Écoutons-le.
La pré-table ronde que nous organisons a un but très simple. D'abord, vous savez qu'il y a toute la question des peuples autochtones pygmées chez nous. Et puis, il y a la loi 0022/0033 qui va entrer en vigueur à la date du 14 février de cette année. Donc, c'est demain déjà. Et il était très important pour nous de réunir les parties prenantes pour réfléchir, non seulement dans le cadre de la loi, du projet que nous animons sur la participation, l'inclusion des peuples autochtones pygmées au processus électoral, mais aussi réfléchir un peu sur les mesures de mise en application de cette loi-là. Et donc, il était très important de réunir les différentes parties prenantes pour un tout petit peu se mettre déjà en chantier et préparer de manière très concrète comment est-ce que les parties prenantes vont accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette loi qui est un véritable défi.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les axes qui ont fait l'objet de cette pré-table ronde? Quels sont les grands domaines qui ont été abordés dans les différentes commissions établies?
Alors, les grands axes qui ont été traités, c'est notamment l'axe des droits civils et politiques. Il y a le deuxième axe qui est celui des droits économiques, socio-culturels. Et puis, il y a l'axe des droits environnementaux, accès à la terre et aux ressources naturelles. Évidemment, chaque axe a fait l'objet de voir les différents secteurs concrets qui concernent la vie des populations autochtones pygmées dans lesquels ils doivent être mis en œuvre. Et puis, les participants ont abordé, si vous voulez, quelles sont les mesures, les politiques qui peuvent être prises au niveau de chaque secteur, de chaque besoin spécifique pour faciliter la mise en œuvre. Et puis, voir de manière assez concrète ce qu'on peut appeler les indicateurs des bénéfices ou des mises en œuvre pour les populations autochtones pygmées.
Une idée sur les grandes idées maîtresses de ces différentes propositions?
On peut dire que maintenant, sur les droits civils et politiques, On a abordé les questions des élections, les questions des représentativités dans les différentes instances de prise de décision. Et puis, évidemment, il y a différents décrets, arrêtés qui vont être pris en œuvre. Au niveau des droits économiques, sociaux, culturels, il y a eu toutes ces questions, des questions d'accès aux services sociaux de base, développement communautaire, développement économique, réduction de la pauvreté, jusqu'aux questions de l'emploi. Et puis, évidemment, sur l'autre aspect qui est celui des ressources naturelles, c'est notamment les questions, la sempiternelle question d'accès à la terre et donc des sécurisations foncières. Et donc, à titre d'exemple, il y a un peu ces questions qui ont été abordées de façon préliminaire, parce qu'après, il y a la table ronde qui va approfondir. Et donc, à la fin de ces travaux, tout à l'heure, il y a la campagne qui va être lancée, la campagne de communication. On remercie les médias qui sont venus, que vous êtes, pour accompagner ce processus qui est un véritable processus de sensibilisation de l'opinion, parce que c'est une question qui n'est pas très bien connue. Et donc, finalement, il y aura des commissions qui vont être mises en œuvre par rapport à chaque catégorie des droits. Non, il faut dire qu'en voyant là, vous avez le témoignage d'une véritable ambition. Normalement, ces travaux tels qu'ils étaient demandés autour de 30 000 dollars, mais on a eu 6 000 dollars de mécanisme IRI, INPES, AIRAI, et ça veut dire que ça fait tout le processus. Depuis un mois, on travaille là-dessus. Bon, et puis, voilà. Maintenant, on est en train vraiment de se battre pour trouver les moyens. Et vous savez, vous avez entendu l'honorable Rachidi, la question des moyens pose un véritable problème. Et donc, c'est un appel qui est lancé à accompagner. On espère que les partenaires vont nous accompagner, mais c'est encore beaucoup une question de volonté.
Oui, mais en même temps, si on est en période préélectorale, 2023, cette année, donc en décembre, il y aura élection. Vous avez également mis un accent particulier sur la participation effective des peuples autochtones à ce processus, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écarts.
Oui, effectivement, là, vous touchez la plaie du doigt et... il y a le mémo qui a été adressé à la CENI et puis aux différentes instances, Sénat, Assemblée nationale et ministères et consorts, parce que la participation, l'inclusion vont se prouver par quatre choses. Premièrement, qu'il y ait un programme de sensibilisation de ces communautés pour augmenter leur participation. Deuxièmement, qu'il y ait des bureaux des votes et des centres d'inscription à proximité de ces populations, effectivement, pour qu'elles puissent facilement participer aux opérations. Et troisièmement, il y a, vous avez vu, la CENI a prévu un mécanisme de cooptation. Et donc, c'est tout à fait normal que les chefs coutumiers autochtones pygmées soient aussi cooptés. Et donc, vous voyez, il y a ce défi qui va effectivement montrer qu'ils ont participé à ce processus et qu'ils ont été pris en compte par la CENI. Et ça, c'est toute une bataille sur laquelle nous sommes lancés. Et nous remercions la presse de nous accompagner. L'idéal, c'est de normaliser la situation des droits des populations autochtones pygmées. Ça veut dire que cette situation soit normale pour tout le monde. Nous savons déjà que les processus électoraux et tout le reste, même nous-mêmes, ce n'est pas une condition normale. Mais l'idéal, c'est celui-là. C'est que sur l'ensemble de la panoplie des droits humains, ils soient pris en compte et qu'on arrive à ce qu'il y ait non seulement des acteurs qui soient engagés, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des politiques gouvernementales et qu'il y ait des programmes d'action qui sont mis en œuvre par les différentes actions. Et nous essayons de travailler en impliquant toutes les parties prenantes possibles, comme vous avez pu le voir, à la fois les différents ministères qui sont impliqués, les PTF. Et là, nous avons vraiment décidé d'impliquer aussi la presse, parce qu'après, ce n'est pas une question de nous. C'est une question nationale qui appartient au gouvernement, qui nous appartient à nous tous. Et nous essayons de jouer notre partition.
Tati, la loi portant protection des peuples autochtones pygmées est censée entrer en vigueur le 14 février prochain.
Oui, Pauline, c'est ce que prévoient les dernières dispositions légales de ces documents. C'est la raison pour laquelle les plateformes qui militent pour la protection et la défense des droits des peuples autochtones pygmées se mobilisent déjà pour mettre en place des instruments juridiques devant accompagner cette loi, ajoute l'honorable Ruben Rachidi, député national élu de la ville de Kindu, qui a porté ces projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale.
Il faut déjà souligner que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, après sa publication, la dernière disposition prévoit qu'elle sera en vigueur à partir du 14 février 2023. Et donc, il y avait un délai de 3 mois qui était accordé avant d'entrer en vigueur. Et dans pratiquement 20 jours, ce sera l'entrée en vigueur. Il est donc normal que toutes les associations qui accompagnent les pygmées, même les associations des autochtones pygmées, puissent se préparer en amont comment ils vont manifester leur adhésion à cette loi le jour de son entrée en vigueur prévue pour le 14 février, comme je le disais. Mais également, au cours de cet atelier, il était question d'analyser les différents aspects qui nécessitent de mesures d'application au niveau de la loi. Parce qu'il y a des dispositions qui, nécessairement, pour être adoptées, il faut qu'il y ait d'autres mesures d'application. C'est notamment des décrets du Premier ministre. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un fonds pour la promotion et le développement des peuples autochtones pygmées, un fonds national, le fonds national ne doit être institué que par un décret du Premier ministre. Et lorsqu'on a parlé de la gratuité des enfants des pygmées, non seulement de l'école primaire comme consacrée à la Constitution, mais jusqu'au niveau des diplômes d'État. Et pour cela, il faut un arrêté du ministre ayant le PST dans ses attributions afin de clarifier cette disposition. Même quand on parle de la promotion de la pharmacopée des peuples autochtones pygmées, il faut une mesure, donc un arrêté du ministre de la Santé. Bref, il y a une série de mesures d'application qui doivent accompagner la mise en œuvre effective de cette loi. Et donc l'atelier de ce jour a le mérite d'identifier ce mesure et afin de voir déjà dans quelle mesure on peut organiser les plaidoyers auprès des ministères concernés. Oui, bien sûr, ils sont là. Il y a des pygmées qui sont là, mais aussi il y a des associations qui accompagnent les pygmées qui ont toujours milité pour la promotion des droits des peuples autochtones. Oui, c'est vraiment l'occasion de saluer l'implication de tout le monde. Hein. Vraiment, en parlant de tout le monde, nous parlons des institutions de la République. Comme je l'ai dit toujours, vous avez constaté que la loi a été à l'unanimité adoptée au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et tout de suite renvoyée au président de la République pour promulgation. C'est que le chef de l'État n'a pas hésité, il a fait directement, il a promulgué la loi, mais aussi on a renvoyé au journal officiel et directement il y avait un numéro spécifique pour cette loi. Donc il y a déjà une implication totale au niveau national, au niveau des institutions, mais aussi au niveau des partenaires qui nous accompagnent. Vous aviez suivi il n'y a pas longtemps, j'étais en séance de travail avec Mme Bintou Keïta, qui est la patronne de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Vous avez constaté que même dans la salle, là, nous avons des partenaires qui sont là, qui représentent des agences du système des Nations Unies et même d'autres ONG de développement. Bref, c'est une question qui mobilise tout le monde, pour voir dans quelle mesure ces compatriotes congolais peuvent également être considérés au même titre que d'autres Congolais. C'est vrai qu'on doit y aller par palier, par étape. D'abord, il faut identifier ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qu'il faut pour que la loi soit mise en vigueur. Ensuite, nous allons passer à l'étape de conscientisation des différents acteurs, ceux qui peuvent appuyer la mise en œuvre, parce que vous êtes sans ignorer qu'il faut des moyens également pour ne serait-ce que vulgariser la loi sur l'étendue nationale. Nous avons un pays qui est continental et nous allons compter surtout sur la bonne foi du gouvernement, son accompagnement, parce qu'il y a c'est le gouvernement, c'est une loi nationale, c'est le gouvernement qui doit la mettre en vigueur. Et donc, il y a tout un travail avec la société civile pour le plaidoyer, ainsi de suite. Bref, nous avons vraiment besoin de l'implication de tous les acteurs. Et ce n'est qu'avec cet accompagnement-là que nous pouvons espérer à l'amélioration des conditions des peuples autochtones pygmées.
Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les axes prioritaires contenus dans la loi portant protection et promotion de droits des peuples autochtones pygmées?
Bonne question, Pauline. Il y en a un nombre de trois, à savoir les droits civils et politiques, les droits environnementaux et les droits d'accès à la terre, les droits sociaux et économiques et les droits liés à l'éducation, y compris la santé. Pour John Nkumu Benani, chargé de la planification à la dynamique des groupes des peuples autochtones au DGPA en sigle, il est important de faire un plaidoyer sur la cooptation des chefs coutumiers telle que prévue par la loi.
C'est le message par rapport à la cooptation des chefs coutumiers que parle la loi. Donc, je me suis dit que c'est un message qui doit être un message de plaidoyer parce que les chefs coutumiers autochtones pygmées n'ont jamais été cooptés. Ils ne sont pas reconnus par la loi. Donc, les messages, ces messages-là de cooptation des chefs coutumiers traditionnels autochtones, ce qui a retenu mon attention. Et par rapport aux élections, les élections, nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde doit participer, doit d'abord être enrôlé, informé sur le processus et soutenir le processus. À l'heure actuelle, en tant qu'autochtone pygmée, il y a des contraintes par rapport à la participation de notre communauté dans ce processus. Il y a beaucoup de contraintes, des boulots d'étranglement, notamment la discrimination qui est faite aux pygmées vis-à-vis de leurs communautés, de leurs voisins. Donc, ils ont vraiment des accès difficiles à participer librement dans le processus. Donc, voilà maintenant ce que je voudrais dire d'une manière globale. Le processus électoral, c'est un droit de tous les citoyens, notamment notre communauté. Donc, il appartient maintenant aux institutions d'appui à la démocratie, comme le CNDH, comme la CENI, de voir comment impliquer cette communauté dans le processus. Être enrôlé, être informé. Ceux qui veulent se faire élire comme des candidats, qu'on leur permette de se prononcer. Donc voilà, monsieur le journaliste, par rapport à votre question.
Juste une question, mais dans l'esprit, pensez-vous que dans le cadre de l'appropriation, des mécanismes de mise en place, des lois qui vont accompagner, au fait des décrets et arrêtés qui vont accompagner la loi promulguée par les chefs de l'État, doit être réservée uniquement au PAP ou c'est ouvert à tout le monde?
Merci, monsieur le journaliste. Nous ne parlons pas d'une loi pour le peuple autochtone. C'est une loi de la République. Il appartient au gouvernement congolais d'appuyer la mise en œuvre effective de cette loi. Il appartient au gouvernement congolais de mobiliser ses partenaires au développement pour venir faciliter les mesures d'application. Donc ce n'est pas une loi pour les pygmées. C'est une loi du pays, de la RDC. Donc, si aujourd'hui, nous, les pygmées, nous parlons de notre loi, parce que la loi parle d'une... C'est une loi spécifique qui fait allusion à notre communauté, qui nous donne des opportunités, donc qui nous donne des occasions de protection, de promotion que nous n'avons jamais eues. Donc, voilà. Mais ce n'est pas notre loi, c'est la loi de la République. Maintenant, la responsabilité revient au gouvernement congolais d'appliquer la loi. Et nous serons là, aux aguets. Nous serons là, très vigilants, pour voir qu'est-ce que le gouvernement fait pour la mise en œuvre de cette loi. Au lieu que la loi reste comme ça, et puis bon, voilà. Le défi, monsieur le journaliste, le défi, c'est la vulgarisation d'abord, et puis l'appropriation de cette communauté. Je peux dire que 90% des communautés autochtones habitent les campements, les villages isolés, les villages non accessibles. Donc, ce qui se passe ici, par exemple, les cas présents ici, ils sont combien qui sont informés de cette pré-table ronde? Donc, voyez les défis. Les défis, maintenant, il faut donner au peuple autochtone de s'approprier cette loi. Mais qui va donner au peuple autochtone de s'approprier? C'est le gouvernement. Qui doit informer les communautés qui vivent là-bas dans les forêts, qui vivent dans les villages non accessibles. Parce que vous le savez bien, dans les villages où nous sommes dans les campements, dans les forêts, ce n'est pas accessible. Donc voilà les défis. Et les défis aussi majeurs, c'est les problèmes de financement. Parce qu'on ne peut pas vulgariser les lois, cette loi, sans financement, on va aller atteindre les amis de Bongandanga, les amis de Yungende, les amis de Bikoro, comment? Il faut avoir des moyens aussi traduire la loi dans les langues facilement compréhensibles au peuple autochtone. Donc voilà, ce sont des défis majeurs que, à mon niveau, je peux réfléchir. Donc tout ça revient aux propriétaires de la loi, c'est le gouvernement congolais. Donc, toutes les responsabilités là reviennent au gouvernement. Donc, quitte au gouvernement de mobiliser ses partenaires au développement. Donc, ceux qui, les partenaires qui sont intéressés à la question des populations autochtones. Donc, il appartient au gouvernement de contacter ses partenaires bilatéraux pour appuyer la vulgarisation, la mise en œuvre des.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Un Code de Développement, le magazine de Radio Okapi axé sur les questions de l'environnement et développement durable. Nous abordons un sujet sur les mesures d'accompagnement de la loi portant protection des peuples autochtones pygmées en RDC.
Est-ce que réellement le peuple autochtone pygmée ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques et électoraux?
C'est le constat qui se dégage, Pauline, selon Luc Loutala. Nous rappelons qu'il est le président de l'ONG Espoir pour tous.
Oui, il faut dire que les peuples autochtones ne sont pas pris en compte comme tels. Donc, c'est un grand défi parce que on sait lorsque un processus électoral peut laisser de côté une partie de sa population, donc ce processus va être jugé de non inclusif et donc il va y avoir une faille à la démocratie. Et donc, sous l'égide de la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, pour le cycle en 2016, on a mené toute une étude en consultant les différentes parties prenantes, en examinant les processus électoraux depuis 2006 jusqu'à 2018. Et les constats étaient flagrants. D'une part, que ces populations étaient laissées de côté, donc elles n'étaient pas incluses dans le processus électoral avec un taux très 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 faible d'inscription aux électeurs. Il n'y avait pas de candidats en tant que tels, qu'il n'y avait pas des bureaux de vote qui étaient implantés dans leur milieu, et qu'il n'y avait pas des programmes de sensibilisation comme tels, et que même les gens qui battaient campagne, hein, parce qu'après des citoyens, ce sont des électeurs, oui. Et les candidats, ils sont obligés quand même de battre campagne auprès des électeurs pour être élus. Ça veut dire que même dans les politiques des différents candidats, il y a très très peu des candidats qui ont battu campagne pour inclure. Ça veut dire que les besoins de ces populations sont restés plus ou moins en marge.
Mais dites-nous, Monsieur Luc, sur quoi est fondé les principes d'inclusivité que vous évoquez?
Il est fondé d'abord sur la Charte universelle des droits de l'homme, hein, qui fait que les processus démocratiques veulent dire que chaque citoyen, parce qu'au moment des élections, ce sont les citoyens qui élisent leurs représentants. Et donc, chaque citoyen en âge légalement de pouvoir voter dans un État va exprimer son point de vue pour donner de la légitimité aux dirigeants qui vont être élus. Et le principe démocratique veut que...
Et le droit aussi de se porter candidat, si l'on veut.
Mais absolument, il y a aussi le droit de participer à la gestion des affaires du pays. Et donc la participation aux affaires, à la gestion des affaires du pays, va prendre deux axes. Premièrement, l'expression du vote, ça veut dire déléguer ses représentants. Et deuxièmement, la participation effective aux instances de prise de décision des politiques qui concernent ces populations. Et donc, ça peut être nommé, comme on a parlé des cooptations, comme on a parlé de candidats. Et donc, ils peuvent être candidats, mais ils ont le droit quand même de désigner les gens qui les représentent aux instances où les décisions sont prises. Et donc, c'est un principe démocratique qui est consacré par des instruments juridiques internationaux. Et maintenant, on va voir qu'au niveau de notre pays, il y a une loi qu'on appelle la loi numéro 022/033, hein, sur laquelle beaucoup des députés ont travaillé. Et il faut saluer ce travail.
Qui a été promulgué l'année dernière,
Oui, qui a été promulgué. Je crois maintenant, la loi doit être entrée en action de façon assez effective. Mmh. Il faut souligner que la RDC est quand même arrivée à se doter de cette loi, et je pense qu'il faut saluer tous les acteurs qui se sont impliqués là-dessus. Mais maintenant, il y a le grand défi qu'on va voir. Mmh. Avoir une loi, c'est une chose, mais appliquer, mettre en œuvre cette loi est une autre chose. Et maintenant, on fait le constat que même au cours de ce processus électoral, et je crois que c'est de ça que nous allons parler, on constate que malgré l'existence de cette loi, par exemple, les mesures d'application de la loi électorale elle-même n'a nullement pris en compte l'existence de ces populations-là.
Oui, mais est-ce que ne pensez-vous pas que cela est lié à leur culture, à un faible taux d'instruction de cette catégorie de la population?
Mais effectivement, que ces populations ont une culture comme toute autre culture. Ainsi en est-il des Bayombe qui ont leur culture, des Swahili qui ont leur culture, les Baluba qui ont leur culture. Le travail de la CENI, évidemment, c'est d'approcher ce qu'on appelle le principe de participation. C'est en fait de faire en sorte que chaque peuple soit rapproché pour voir dans quelle mesure ils peuvent effectivement être inclus dans le processus. Donc le fait de la diversité de nos cultures ne peut aucunement justifier l'exclusion du processus électoral.
Il est important de mettre en place des mécanismes qui combattent toutes les formes de discrimination à l'endroit des peuples autochtones pygmées sur l'ensemble du territoire national.
En tout cas, c'est ce que pensent certains auditeurs de la Radio Capi qui ont réagi sur les sujets liés à l'implication des peuples autochtones au processus électoral en cours. Écoutons leurs commentaires.
Moi, je pense que le problème, c'est pas seulement pour le processus électoral. Les peuples autochtones, tout comme les autres peuples qui vivent dans l'intérieur, souffrent de la promulgation des différentes lois. Donc aujourd'hui, nous constatons que les lois qui sont promulguées sont d'application seulement dans les grands centres, alors qu'à l'intérieur, où il y a même les autochtones, il y a cette problématique, ce problème-là de sensibilisation et d'interprétation des lois. Alors je pense que pour le peuple des autochtones, comme il en est question dans ce débat ici, ce qu'il faut peut-être faire, c'est question de les sensibiliser. Pour le moment, je peux dire qu'il est un peu tard, mais il n'est pas tellement tard. Et il y a encore du temps de voir ce peuple-là, de les approcher. Quelle que soit leur culture, quelle que soit leur façon de vivre, en tout cas, ils ont aussi besoin d'être représentés et aussi de participer à l'élection des animateurs des institutions. Donc je pense que l'invité doit nous aider, tous les autres qui sont en train de nous suivre doivent nous aider. Ici, je ne vois pas seulement les autochtones, en tout cas je vois tout le monde, tous ceux qui vivent dans l'intérieur. En tout cas, ils ont des difficultés. Quand vous voyez par exemple ici à Kasumbalesa ou dans le Haut-Katanga général, il y a beaucoup de villages qui environnent nos villes ici. Vous allez voir que les villageois là ne sont pas informés de tout ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas, il y en a, je vais vous dire, qui ne connaissent même pas les animateurs actuels des institutions politiques. Donc c'est un problème. Les ministères de l'Intérieur, par le biais de leurs membres et consorts, leurs agents publics, doivent vraiment nous aider. Ils doivent faire ce travail là-bas. De
oui, mais Monsieur Baudouin, vous voulez dire que dans certains coins du pays, vous voulez dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant que l'opération d'enrôlement des électeurs a commencé?
Oui. Là, je vous dis, vous serez surpris si je vous parle de ça. Moi, je connais des gens ici qui ne savent absolument rien, qui sont ici chez nous d'abord au Katanga. Ils ne savent même pas quand est-ce que cela va commencer. Ils ne savent même pas qu'il y a les dix provinces où les opérations ont déjà commencé. Donc, c'est un problème de sensibilisation, comme j'étais en train de le dire. Donc, le service, nous, le ministère de l'Intérieur, doit beaucoup plus nous aider. Nous sentons que l'État, sur ce point-là, en tout cas, il a beaucoup de choses à faire. Donc, le ministère, surtout de l'Intérieur, comme c'est de cette dépendance-là, doit beaucoup plus nous aider à sensibiliser, surtout les peuples autochtones, comme vous venez de le dire. Dans le cadre de la sensibilisation, je voulais aussi dire la sécurité. Ce sont des gens qu'il faut mettre aussi en sécurité. Ces gens-là vivent dans des conditions très précaires, où nous ne sentons pas le pouvoir de l'État dans ces coins là-bas. Donc quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces gens vivent là-bas, sont des conditions là très précaires. On dirait que ce sont des étrangers dans notre pays, alors que ce sont des citoyens congolais. Ils ont besoin, ils ont droit à la sécurité à la santé, à l'éducation. Comment quelqu'un peut savoir qu'il faut aller, il faut aller aux élections s'il n'a pas été informé de ça, s'il n'a pas au moins appris quelque chose quant à ça? Moi, je pense que l'État doit beaucoup plus nous aider pour aider ces populations. Si aujourd'hui il fait tard, mais dans les jours à venir, dans les années, dans les mois à venir, dans les générations à venir, nous devons beaucoup plus aider ces gens-là.
Oui, mais pour l'État, pour les cas d'élection 2023, donc il n'est pas encore tard, on a encore toute une année, donc les processus ont commencé, donc il est temps, on peut sensibiliser. Merci beaucoup, Baudouin. Nous rappelons que c'est depuis Kasumbalé que vous intervenez, hein, vous plaidez pour la sensibilisation des proximités de cette catégorie de la population. Cette fois-ci, allons à Kindu pour donner la parole à Jean-Claude Bouchiri, à qui nous disons bonjour.
Merci beaucoup, Tati. C'est comme l'a dit mon prédécesseur qui a appelé à partir de Kasumbalesa. Vous savez, d'abord, les peuples autochtones ou les pygmées, ce sont les peuples qui sont marginalisés. Moi, j'ai un exemple. Au Maniema, nous avons au moins trois territoires qui ont les peuples autochtones. J'ai fait allusion au niveau des territoires de Kailo chez les Balanga. J'ai fait allusion au niveau des territoires de Kibombo chez les Baïna. Et j'ai fait aussi allusion dans les territoires de Kabambare là-bas. Vous savez, pour accéder là, ce n'est pas facile. Lorsque vous vous rendez, par exemple, nous étions dans une activité à travers cette population, cette catégorie de personnes, vous allez faire plus ou moins 7 jours ou 6 jours pour les atteindre. Et peut-être pour les rassembler, ce n'est pas facile. Donc, pour eux, toute une opération là, lorsque vous vous rendez là-bas, ils croient que peut-être vous venez faire quelque chose contre eux, tout ça. Il n'y a pas une mobilisation. Nous saluons effectivement la loi numéro 0022 qui a été tout de suite là adoptée et promulguée par les chefs de l'État. Donc, quitte à nos politiciens, quitte au ministère de l'Intérieur et aux autres parties prenantes de faire une mobilisation tous azimuts pour que ces gens puissent comprendre qu'est-ce que le processus électoral. Parce que ce n'est pas facile. Et comme mon prédécesseur a dit, au niveau par exemple ici de Kim, c'est peut-être où c'est au niveau où les gens savent qu'il y a le processus électoral, mais descendez au niveau des territoires, c'est tout un problème. Alors, qu'est-ce que dire de cette population qui est marginalisée? En tout cas, c'est difficile à retordre. Il faudrait vraiment une longue campagne, un long processus pour les atteindre. Comme nous sommes dans la troisième ère opérationnelle, nous demandons à toutes les parties prenantes de prendre les choses à bras le corps pour que ces gens puissent aussi, n'est-ce pas, être sensibilisés et savoir ce que c'est le processus électoral ici.
Il faut promouvoir, par exemple, l'inclusion de peuples autochtones, pygmées, dans les instances décisionnelles.
Oui, Pauline, jadis, mis à l'écart et stigmatisé, leur sort préoccupe les élus. Aujourd'hui, il y aurait plus d'un million de pygmées en RDC, selon nos sources. En plus de la gratuité de l'enseignement primaire déjà institué pour tous les enfants, les pygmées, eux, pourraient étudier jusqu'en secondaire gratuitement. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Il n'y a pas d'inconvénient que l'on puisse aussi coopter les chefs coutumiers des peuples autochtones pygmées à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au gouvernement en vertu de la discrimination positive, comme le pense Nyongo Lobeto, directeur des programmes de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées l'INAPICO.
La cooptation des chefs coutumiers dans les instances décisionnelles et dans la législation, c'est une chose très importante. Tu ne peux pas défendre ton peuple si tu n'es pas participant de là où les lois, les mesures d'application, ainsi de tout, là où les lois s'élaborent et se votent. Si, et c'est le moment si, beaucoup de nos droits et de nos lois, cette loi a pris beaucoup de temps, c'est parce que il n'y avait pas, ni les chefs coutumiers n'étaient pas là, comme cooptés, les chefs coutumiers pygmées, ni les députés pygmées n'étaient pas là. C'est pour cela que ça a pris tout ce temps que ça aurait pris depuis 2009 jusqu'à 2022. Ça, vraiment, nous allons appliquer les mêmes procédures, les mêmes pratiques que nous avons menées pour que cette loi ait arrivé jusqu'à ce niveau de la promulgation. Il y a des gens qui ont subi depuis 2009, 2010, 2011, ils ont subi des pressions au niveau des provinces. Les autres ont été incarcérés pour que cette loi soit une loi, parce que les autres disaient pourquoi cette loi spécifique pour une communauté et les autres communautés. Les gens oublient que la première communauté en République démocratique du Congo qui souffre la discrimination intense et positive et négative, ce sont les peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, dont la lutte est encore longue. Et ce que nous allons faire, on va utiliser la même stratégie qu'on a utilisée pour que demain ou après-demain, les peuples autochtones les chefs coutumiers des peuples autochtones pygmées soient aussi pris en compte dans des nouvelles lois électorales qui sera révisitées, malgré que dans notre pays, il faut les 50 ans, d'autres lois 50 ans, 25 ans, et par rapport à l'opportunité que le gouvernement met voit par rapport une réforme sectorielle. Et c'est ainsi que ce qu'on fera avec pour que les peuples autochtones pygmées, les chefs coutumiers qui proviennent des communautés autochtones pygmées soient aussi cooptés comme les autres peuples, ça va. Si et seulement si nous avons l'apport comme aujourd'hui nous sommes ici, ça ne peut pas traîner. C'est parce que chez nous, on a un adage qui dit, quand nous avons un programme de chasser un grand mammifère, on utilise tout le monde, toutes les capacités et toutes les connaissances traditionnelles de toutes les communautés. Chacun amène ce qu'il peut, chacun amène ce qu'il a, chacun amène sa connaissance qu'il possède pour abattre un grand mammifère. C'est la même chose que nous ferons dans cette loi. Comme tout le monde sont ici, les partenaires nous ont accompagnés, le gouvernement a accepté d'abord cette volonté des législateurs et cette volonté des gouvernements congolais à travers la présidence de la République pour que ça arrive à la promulgation. Nous ferons aussi les mêmes choses comme nous avons fait au niveau quand nous demandons la promulgation et le vote de notre loi spécifique aux peuples autochtones pygmées. Le message que j'ai, ça sera regrettable. On ne sait pas, dans les villages, au moins nous parlons ici, quand je suis devant comme hier je suis allé faire un relais, je me suis présenté comme je me suis présenté. Comme je suis à Kinshasa, on m'a pris comme la casquette que j'ai pris pour que je sois. J'ai ma carte avant tout le monde. Et ce n'est pas comme un autochtone qui est dans la forêt, dans des provinces. Là où, avec un exemple typique, j'étais à Maïndombe. J'arrive là, donc, législatif de 2018. J'arrive là-bas, pendant l'enrôlement. Si tu es reconnu comme autochtone, tu ne peux pas dépasser, même si tu étais arrivé à 5 heures. Quand un bantou arrive, toi, mon choix, pourquoi tu es ici? Tu ne peux pas avoir la carte avant moi. Tu vois, tout ça, pourquoi c'est dans l'instance de décision, il n'y a pas aucun autochtone qui était là. Dans les OPS, personne autochtone qui était là. Même dans tous les services, il n'y avait aucun autochtone. Quand je suis arrivé, je me suis imposé. Comme j'étais le leur, je me suis imposé, j'ai dit à Lopez, monsieur le président du centre, moi je suis tel, je me suis présenté. À ce moment-là, tous les peuples ont dit, notre frère est ici aujourd'hui. Tout ce monde, tous les peuples autochtones pygmées que j'ai rencontrés avant, ils sont passés. Parce que tous ces gens-là m'ont regardé, ils ont maintenant leur frère qui a étudié, leur frère qui s'impose, qui nous dépasse la connaissance aussi, nous qui sommes ici. Je me suis imposé en tant qu'intellectuel autochtone pour que les intellectuels autochtones qui étaient là-bas, comme ils sont identifiés par ses voisins, ce frère, ses consoeurs, ses confrères. Non, vous êtes, la coutume nous dit qu'un autochtone ne peut pas avoir ne peut pas être devant un bantou.
D'ailleurs, toi, tu sens. Quitte devant moi, moi, je passe. C'est ce qui m'a rébellé. Et tout le monde, au moins, pendant mon séjour, j'ai augmenté encore une semaine. Au moins 80% des peuples autochtones se sont fait enrôler. Tout simplement, c'est quand nous avons, nous avons quelqu'un qui est dans le système électoral, les peuples autochtones seraient beaucoup, électeurs. Et si nous n'avons pas de personnes qui sont dans les processus, là, nous allons rater beaucoup. Les droits civiques, nous allons les rater. Parce que voter, c'est un droit.
Si c'est par ici que nous clôturons ce magazine Écho de développement.
Tout à fait, Pauline, c'est complètement fini pour ce numéro consacré au mécanisme devant accompagner la loi portant protection des peuples autochtones aux pygmées en RDC.
Tati, le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain.
En attendant, portez-vous bien et bonne condition d'écoute des programmes de Radio Capi.